Vous êtes sur RTL.
Place à RTL Soir avec vous, Marc-Olivier.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos. À la une, la tempête Gabriel déboule sur la France. 43 départements sont en vigilance orange, neige, verglas ou vent. 5 à 10 cm de neige sont attendus notamment en Île-de-France cette nuit. Sur la côte atlantique, le vent va dépasser les 100 km/h. En région parisienne, la route nationale 118 est fermée depuis 15 heures. Aucun poids lourd ne pourra circuler. Dès 19h, une trentaine de vols sont d'ores et déjà annulés à l'aéroport d'Orly. Et ce n'est que le début, Louis Baudin.
Oui, exactement. Hein, les premières chutes de neige sur la Bretagne, la Normandie, sur la Haute-Normandie également. Et effectivement, ça va se dégrader au fil des heures. Sur l'Île-de-France, ça va être d'ici 20 heures à peu près. Tout comme la région centre, le nord, toutes les régions proches du Massif central seront également concernées par cette tempête de neige. Et puis, vous l'avez dit, le vent va également se renforcer. On dépasse déjà en ce moment les 100 km/h sur la façade atlantique. Des vents qui souffleront fort également dans les terres. Et puis, cet épisode de neige va se propager vers l'est tout au long de la nuit.
Merci Louis. On vous retrouve tout au long de RTL Soir jusqu'à 20 heures. Nous serons donc avec vous qui rentrez du travail. On sera sur la RN 118, également à Lacanau en Gironde où ça souffle déjà. Et à 18h20, notre invité, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. RTL Soir, première édition. Avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Des dizaines de djihadistes français pourraient être rapatriés en France, conséquence du retrait des Américains en Syrie. S'ils reviennent, ils seront arrêtés et jugés, promet Christophe Castaner. Le restaurant d'un chef étoilé incendié en Haute-Garonne, Yannick Delpech soupçonne les gilets jaunes, en tout cas les plus radicaux. Je suis une victime collatérale, dit-il, vous allez l'entendre. L'enquête sur le dramatique incendie de Courchevel, une arme a été retrouvée sur place. À suivre également, les médecin payé en fonction de la satisfaction du patient. C'est une piste pour le financement des hôpitaux. Et puis Asia Bibi, enfin libre, la chrétienne condamnée pour blasphème va enfin pouvoir quitter le Pakistan. La Bourse de Paris, elle termine en hausse ce soir de 0,81% à 4928 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 9, le 3, le 2, le 4 et le 5.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre cette actualité. Plusieurs djihadistes français rapatriés de Syrie, donc vous venez de le dire. Mais combien sont déjà revenus et comment ont-ils été gérés par les autorités. 18h25, direction les coulisses de l'actualité en immersion avec les espions de l'armée. On va vous emmener en coulisses de la très secrète direction du renseignement militaire. Leur mot d'ordre, ne jamais laisser de traces. 18h30, Alain Duhamel, François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, contestée. Et puis 18h35, l'incroyable exploit de Jean-Luc Van Den Heide. À 73 ans, il vient de remporter un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et surtout sans aucun moyen de communication moderne. Arrivé ce matin, au bout de 7 mois en mer, il fait escale avec nous tout à l'heure sur RTL. 19h15-20h, on refera le monde.
RTL Soir.
Alors la semaine dernière, c'était juste un avant-goût, hein, mais la neige est de retour et cette fois Isabelle, c'est du sérieux.
Ouais, c'est une vraie tempête hivernale qui nous fonce droit dessus et cette tempête a un nom, Gabriel. Elle arrive par l'ouest et entre la Vendée et les Landes, on attend des rafales de 120 à 130 km/h. Philippe de Maria, vous êtes à Lacanau pour RTL et vous nous le confirmez, ça souffle.
Oui, Gabriel est au rendez-vous au Cap Ferret, on a enregistré des vents à plus de 100 km/h. Ici à Lacanau, les vagues se creusent et explosent assez loin car le coefficient de marée est faible, ce qui devrait protéger les côtes. Alors se promener sur la plage a été interdit par arrêté municipal. Aline et son mari sont venus spécialement de Bordeaux admirer le spectacle à bonne distance des vagues.
On est venu voir l'océan vivant, c'est magnifique. C'est l'océan dans toute sa force, c'est de toute beauté.
Bon, après évidemment c'est une tempête, est-ce que vous prenez des précautions particulières quand vous allez rouler peut-être tout à l'heure pour rentrer sur Bordeaux?
Ah oui, je pense, on va pas partir trop tard parce que je pense que le plus gros est pas là, ça va souffler davantage. Je pense que c'est les branches, les arbres qui tombent et c'est le risque. Puis la pluie, bon, faire attention.
La vitesse de circulation a été ramenée à 80 km/h sur toutes les routes des départements côtiers et interdiction de doubler pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Fin de l'alerte vent violent à minuit ici sur la côte atlantique.
En Gironde donc pour RTL, Philippe de Maria.
Et un peu plus au nord, la pluie va se transformer en neige. Pas une mince pellicule qui fond vite, hein, mais une vraie couche de 5 à 10 cm, voire 15 localement. 34 départements sont en alerte neige-verglas, dont l'Île-de-France. Et on s'attend évidemment à de sérieux problème de circulation. Nicolas Burnand, vous êtes à Vélizy, au bord de la N118 qui dessert tout le sud-ouest de Paris. Une route avec de fortes pentes, beaucoup de virages. Elle est fermée depuis le milieu de l'après-midi.
Oui, des voitures de police stationnées en travers de la route empêchent les véhicules d'accéder à la N118 qui provoque des bouchons à bord de cet axe stratégique. Derrière son volant, Fabrice s'agace, klaxonne. Il se demande comment il va rentrer chez lui.
C'est complètement bloqué, c'est le même blocage que l'année dernière et les années d'avant.
Le plan, ce serait que je passe pour ma part par la petite route. Quelque chose me dit qu'on va être plusieurs à avoir la même idée, donc on va rester là pendant un bon moment, je pense. C'est désespérant et c'est un peu agaçant quand même.
Quelques flocons commencent à tomber, alors Antoine ne veut pas prendre de risques. Sa voiture n'est pas équipée de pneus neige, il va donc emprunter le réseau secondaire et conduire prudemment.
On peut être surpris par un amas de neige sur la route. Et puis, on ne sait jamais ce que peuvent faire les autres conducteurs aussi. Il faut être d'autant plus vigilant. La 118, j'ai déjà prise par des grands épisodes de pluie verglaçante. C'est juste l'enfer. Donc, c'est normal qu'il est fermé.
Au bord de la Nationale, les parkings des centres commerciaux sont quasiment vides. Beaucoup de clients et d'employés appliquent les mesures préconisées par la préfecture. Michel travaille dans un magasin d'ameublement. Ce soir, il a une dizaine de kilomètres à faire en voiture.
J'anticipe de façon à pouvoir me rapatrier vers la région de mon domicile, donc en partant environ 2-3 heures avant. Pour un confort un peu plus personnel, parce que généralement en moyenne c'est environ entre 2 heures et 2 heures et demie de trajet. Là, si je reste avec la neige, ça serait au moins 4 ou 5 heures, je pense.
La N118 restera fermée à la circulation dans les deux sens jusqu'à au moins demain en milieu de matinée, après que le plus gros de l'épisode neigeux soit passé.
Au bord donc de cette fameuse N118 pour RTL, l'un de nos reporters, Nicolas Burnand.
Voilà pour la route. En ce qui concerne le rail, la SNCF invite ses clients à vérifier que leur train est maintenu avant de se rendre en gare. Par ailleurs, notez qu'une trentaine de vols sont annulés ce soir à l'aéroport d'Orly entre 20h et 23h30. Pas de problème en revanche à Roissy.
On va faire le point complet à 18h20 avec le préfet de police de Paris, donc Michel Delpuech. Il sera notre invité. Point complet sur la situation en Ile-de-France.
Dans les Alpes, une avalanche a fait 2 morts ce matin sur le domaine des Deux Alpes. Les 2 victimes faisaient de la randonnée à ski hors piste. Le risque d'avalanche était de 3 sur 5.
La France va-t-elle rapatrier les djihadistes français qui sont détenus en Syrie? La question divise ce soir.
Question plus que jamais d'actualité avec l'annonce d'un retrait américain. Dès ce matin, Christophe Castaner expliquait que ces prisonniers actuellement détenus par les Kurdes allaient sans doute être dispersés et qu'ils voudraient sans doute revenir en France. Il a été interpellé à ce sujet à l'Assemblée par une députée Les Républicains.
Ce que je veux vous dire, Madame la députée, de façon très simple, très claire et très nette, c'est que s'il y a des Français sur place... Et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont, on sait de qui il s'agit. Et s'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et ils seront jugés.
Des propos qui font bondir à droite. Le ministre de l'Intérieur est taxé de laxisme, Vincent Derosier.
Oui, à droite de l'hémicycle, c'est un non au retour, franc et massif. Les Républicains, comme le Rassemblement National, estiment que les djihadistes ne sont plus français. Ils doivent donc rester où ils sont, d'après Éric Ciotti et Sébastien Chenu.
Ces personnes ont trahi la France. Elles doivent rester en Syrie. Il n'y a aucune raison qu'on organise le rapatriement de ces personnes. Ce sont des barbares et ils doivent être jugés dans les pays où ils ont commandité des crimes, souvent contre notre pays.
Ces terroristes n'ont plus rien de français et qui voudraient revenir sur notre sol plutôt que de croupir dans les prisons kurdes n'ont rien à faire sur le territoire français.
Une position qui heurte la députée La République En Marche, Sonia Crimi.
C'est quoi cette histoire? Il reste ces jeux, il reste tout? Parce que je vois très bien la logique de la droite. Non, chez eux, c'est ici, c'est la France.
Et c'est assez rare pour être signalé. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tout le soutien des Insoumis et de leur député Alexis Corbière.
Si on a la garantie qu'ils sont jugés à la mesure de leurs méfaits en France, on a au moins l'assurance que justice passera.
Enfin, tous les groupes, à l'exception du Rassemblement National, sont favorables au rapatriement des enfants de djihadistes.
À l'Assemblée nationale pour RTL, Vincent Derosier, un débat en perspective tout à l'heure dans Refait le Monde qui sera houleux.
Tout autre sujet, Christophe Castaner souhaite poursuivre Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes. Après la blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez, il a appelé à un soulèvement sans précédent par tous les moyens nécessaires.
Et à propos de Gilets jaunes, le restaurant d'un chef étoilé incendié en Haute-Garonne, et on soupçonne justement ces Gilets jaunes.
Il s'agit de l'Amphitryon de Yannick Delpech à Colomiers. La voiture du restaurateur a été brûlée hier matin et cela s'est propagé au bâtiment. Un accident qui survient après des tags, des insultes. Or, Yannick Delpech a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences dans les manifestations des Gilets jaunes. Il s'est confié à Patrick Tégéraud.
Je suis une victime collatérale d'une poignée de haineux, de casseurs, de pilleurs, qui veulent que le chaos. Je ne suis pas contre les Gilets jaunes et je ne pense pas que les Gilets jaunes m'en veuillent. Je suis chef d'entreprise, respectueux de ses salariés. Je sais ce qui reste à la fin du mois à chaque salarié. Donc bien sûr que je suis d'accord avec une partie de leurs demandes, bien sûr. Voilà, sur le pouvoir d'achat en particulier. mais je peux pas laisser ma ville aux mains tous les week-ends de ces casseurs qui viennent juste pour le chaos. Voilà.
Quand est-ce que vous pourrez reprendre votre activité?
Moi, j'espère le plus tôt possible parce que j'ai pas envie d'arrêter, parce que je baisserai les bras, parce que j'ai pas envie de me taire non plus et que j'ai envie de leur montrer que je suis plus fort que ça et que mes salariés sont plus forts que ça. Et aujourd'hui, ils étaient là pour essayer de déblayer un maximum en attendant de pouvoir reconstruire.
Le chef, donc Yannick Delpech au micro RTL de Patrick Tégéraud.
Une nouvelle liste gilets jaunes pour les européennes. L'un des meneurs niçois de la contestation. On a présenté les grandes lignes aujourd'hui. Une liste qu'il veut apolitique et asyndicale pour porter des idées sur l'immigration et sur la souveraineté. Il l'a baptisée Union jaune.
18h10.
On va marquer une pause et dans un instant, le drame de Courchevel. On a retrouvé une arme près du foyer incendié.
18h12, la suite de RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et un nouvel élément dans l'enquête sur l'incendie de Courchevel. On a trouvé une arme, Isabelle.
Oui, l'incendie d'un bâtiment hébergeant des saisonniers a fait 2 morts et 20 de blessés il y a 10 jours. Et on apprend aujourd'hui qu'un pistolet automatique a été découvert aux abords du foyer, Frédéric Perruche.
Oui, selon nos informations, ce sont les pompiers qui ont découvert l'arme dans la neige à proximité du bâtiment quelques heures après l'incendie. Elle n'a pas servi. Les 9 cartouches du pistolet semi-automatique, un pistolet mitrailleur, ont été retrouvés dans le chargeur. À qui appartient cette arme? C'est la question. À l'un des 60 saisonniers hébergés, première hypothèse, ou à l'auteur de l'incendie qu'il aurait perdu en quittant précipitamment les lieux. À ce stade, le parquet d'Albertville se refuse à tout commentaire. Des investigations sont évidemment en cours pour tenter d'identifier le propriétaire du pistolet, à moins qu'il ne provienne du marché noir ou d'un vol. Les enquêteurs recherchent de l'ADN et des empreintes. Il y en a, là encore, mystère pour l'instant. Mais cette découverte intrigue les gendarmes autant qu'elle les conforte dans l'hypothèse privilégiée de la piste criminelle. 2 départs de feu auraient été mis au jour au 2e étage de l'immeuble. Des saisonniers auditionnés évoquent des embrouilles entre occupants, du trafic de drogue. Enquête tous azimuts donc pour un bilan tragique, 2 morts et 4 blessés graves.
En Rhône-Alpes, donc pour RTL, Frédéric Perruche. Et si les médecins étaient payés en fonction de la satisfaction du patient? Ce n'est pas de la science-fiction, Isabelle, hein? L'idée est à l'étude.
Oui, le projet de loi santé qui sera présenté en Conseil des ministres dans 2 semaines prévoit une vaste réforme du financement des hôpitaux. Un rapport a été remis ce matin à la ministre Agnès Buzyn. Il préconise notamment de privilégier la qualité à la quantité. En clair, Anaïs Bouissou, on demanderait tout simplement aux patients s'ils ont été bien soignés.
Oui, avec des questionnaires pour vérifier en combien de temps vous vous êtes remis debout après une opération de la hanche, par exemple. Est-ce que vous avez souffert ou pas? Est-ce que le traitement vous a paru adapté? Et comment vous vous sentez à la sortie de l'hôpital? Alors attention, ne vous attendez pas à pouvoir noter votre hôpital comme un hôtel avec des petites étoiles de 1 à 5. Le but serait plutôt de juger à la fois la qualité des actes du point de vue des professionnels et la qualité du point de vue des patients ressentis par les malades. Ce point sera un facteur de financement parmi 5. Les hôpitaux et professionnels seront également rémunérés en fonction du suivi des maladies dans leur ensemble. Comment on vérifie qu'un diabète ne va pas dégénérer, par exemple, en payant mieux la prévention? Avec un objectif clair, privilégier la qualité des soins à la quantité. Ça paraît évident, mais jusqu'à présent, pour être bien payé, un hôpital avait presque intérêt à multiplier les radios, les chirurgies, les actes inutiles. Tout cela plutôt que de soigner et de ne pas revoir ses patients.
Explication RTL, signée Anaïs Bouissou. À l'étranger, Isabelle, maintenant, le dénouement est proche, enfin, pour Asia Bibi. Elle va pouvoir quitter le Pakistan.
Cette chrétienne a été condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Elle a passé 8 années dans le couloir de la mort, mais face à la mobilisation internationale, la Cour suprême du Pakistan l'a finalement acquitté en octobre dernier au grand dam des islamistes radicaux. Aujourd'hui, un ultime recours contre son acquittement a été rejeté. Elle est enfin libre. Immense bonheur pour la présidente de son comité de soutien, Anne-Elisabeth Tollé.
C'est un énorme ouf de soulagement et c'est une victoire surtout qui montre qu'il ne faut jamais se résigner face à la persécution. Alors désormais, Asia Bibi est libre, complètement libre. Elle est officiellement acquittée et elle peut enfin quitter le Pakistan et retrouver les siens et vivre librement où elle le souhaite à travers le monde. Actuellement, Asia Bibi est toujours sous très haute protection à Islamabad. Tant qu'elle n'a pas quitté le territoire pakistanais, elle est la personne la plus menacée de mort dans ce pays. Donc, elle va se jeter dans le premier avion dès qu'elle le pourra et ce sera vraisemblablement pour le Canada. Le Canada, depuis le début, et je le disais, était une une destination privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse communauté pakistanaise, d'autant que Justin Trudeau avait affirmé au mois de novembre dernier qu'il accueillait les bras ouverts.
La présidente du comité de soutien français, donc d'Asia Bibi au micro RTL, de Brice Dugénie.
Et au Royaume-Uni, Theresa May ne baisse pas les bras. La première ministre britannique veut rouvrir les négociations avec l'Union européenne pour décrocher un accord de divorce qui serait acceptable pour ses députés. Le précédent a été rejeté avec fracas. Pas sûr que l'Union européenne soit prête à de nouvelles négociations.
On sera à Londres tout à l'heure dans le journal de 19h. Mais avant ça, Isabelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.